est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
En toute chose, c'est la fin qui est essentielle. Aristote. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est le clap de fin pour Absolument Essentiel. Alors, pour ce 18e numéro, nous allons terminer par un sujet fort et nécessaire, puisque mon invitée cette semaine est une écrivaine, auteure de romans, d'essais et de biographies. Mon invitée vient de publier un livre intitulé « La fabrique des pervers » chez Gallimard. Mon invitée, c'est Sophie Chauveau. Avec elle, on parle d'un des derniers tabous de nos sociétés, on parle de l'inceste, un entretien absolument essentiel, enregistré dans un bureau de Folio, les éditions Gallimard à Paris, 5 rue Gaston Gallimard, les choses sont bien faites, rencontre.
Bonjour Sophie Chauveau.
Bonjour.
La fabrique des pervers, c'est pas un livre, c'est un coup de poing. L'inceste, c'est le sujet. Vous l'avez vécu dans votre enfance, votre adolescence. Vous vous êtes rendu compte que dans votre famille, vous n'étiez pas la seule à avoir subi l'inceste. Vous avez fait le compte des générations. Vous avez identifié sur 4 générations une demi-douzaine d'adultes incestueux, prédateurs, violeurs. Cet inventaire terrible, c'est un courrier qu'il déclenche en mars 2014, celui d'une lectrice. Elle s'appelle Béatrice et en réalité, c'est une cousine.
Je n'aurais jamais écrit ce livre si cette femme ne m'avait pas contactée, si nous n'avions pas découvert que nous étions cousines assez proches d'ailleurs. On a un bisaïeul commun. Et si nous n'avions pas des parallélismes de vie, de forme et d'histoire qui sont quand même assez saisissantes. Et du coup, on n'était pas... Vous savez, le problème de l'inceste, c'est qu'on ne sait pas que c'est pas bien. Tant qu'on est petit, quand on est dans nos familles, c'est normal ce qui se passe. Donc, il faut vraiment commencer à parler. Et en général, on n'en parle pas, donc on ne le sait jamais. On peut ne pas le savoir. Donc, cette histoire intéressante, c'est qu'avec elle, on découvre que non seulement il y a elle, il y a moi, mais il y a ses frères et sœurs, il y a plein de gens, plein de générations. Et là, à ce moment-là, je me disais, c'est trop, c'est pas possible. Je vais faire l'enquête. J'ai été journaliste, je me souviens, je reprends mon bâton de journaliste et je commence à appeler les rares vivants, les rares survivants dans les générations au-delà de nous. Et au lieu de leur demander ce qu'ils ont fait de mal à leurs enfants, je leur demande ce qu'ils ont subi quand ils étaient enfants. Et là, les vannes s'ouvrent. Et je suis assez étonnée. Et ça vaut du coup le coup d'un livre parce qu'on est dans un truc qui dépasse de très très loin l'histoire personnelle. Et même une histoire familiale, on est dans une histoire sociale, la France c'est aussi ça.
Et même il y a un moment où vous vous demandez, mais c'est pas possible, il y en a trop, ça
peut pas être vrai. On n'y croit pas au début. Alors après évidemment on voit les victimes, on voit dans quel état ils ont été fracassés, on se rend bien compte qu'il y a ceux qui ont fait un travail analytique, qui ont travaillé réellement sur le traumatisme que ça représente toujours, et la salissure jusqu'à l'âme que c'est l'inceste, puis ceux qui ne l'ont pas fait, et là il y a des suicides en série, enfin il y a... Voilà, il y a des gens qui ont disparu, qui ont changé de pays, qui n'ont plus jamais voulu revoir leur famille. Donc là, on se dit, tiens, il y a des preuves un peu partout, les preuves s'accumulent. Et là, je me dis, je suis quand même écrivain, c'est un livre. J'aurais jamais écrit ce livre. Il ne m'intéressait pas de l'écrire si ça avait été mon histoire. C'est la multiplication des drames. Et du coup, c'est un côté saisissant, quoi.
Et c'est aussi votre histoire, parce que l'inceste... Vous en avez été victime, Sophie Chauveau. C'est d'abord vos parents qui vous imposent l'exhibition de leur nudité dès l'enfance.
Alors, il y a quelque chose de très intéressant à développer, que moi j'avais travaillé en analyse il y a très longtemps, qui s'appelle l'incestuel, qui n'est pas l'inceste, qui est le climat qui permet l'inceste, c'est-à-dire l'exhibitionnisme, c'est-à-dire les caresses qui s'attardent, la conversation qui porte beaucoup sur des choses autour du sexe. Tout ça, c'est un climat qu'on fabrique dans des familles et dont on n'a pas conscience, puisqu'on ne va pas dans les autres familles. On ne sait pas que c'est pas comme ça ailleurs. Alors on s'en rend compte à des signes très très microscopiques. Les amis de classe qu'on invite à passer le week-end à la maison et qui ne reviendront jamais parce qu'elles ont raconté ce qu'elles ont vu et que leurs parents disent niette. Mais l'information, vous ne l'avez toujours pas. Donc ça met très très longtemps à vous venir à l'esprit. Et puis après, on est toujours un peu dans la protection de ses propres parents. Donc on résiste à l'idée qu'ils se soient conduits comme ils se sont conduits. Toujours sous le couvert de « mais c'est par amour, ma chérie ».
Parce qu'on a toujours besoin d'aimer quelqu'un, dites-vous. Votre père vous a fait subir l'inceste, votre mère... Il y a des très très beaux passages dans le livre où vous vous demandez si elle est complice, si... Et en fait, on comprend que vous avez toujours recherché son amour parce qu'il fallait bien sauver l'amour quelque part.
C'est très difficile de rejeter son père et sa mère. C'est forcément, on en sauve un in extremis jusqu'au dernier moment. Et après, quand on fait un travail qui est un travail de grande mise à distance, quand même, j'aurais jamais pu écrire ce livre si la douleur était toujours là. Il fallait que ça soit loin de moi. On comprend que les femmes sont toujours complices. Après, on fait un travail quasiment d'analyste soi-même. La complicité, c'est le silence des femmes. Elles ne font rien, elles ne disent rien. Moi, j'interroge mes copines mères. Elles changent les verrous dans la journée. Les pères ne revoient pas leurs gamins. On met la justice sur le coup. Immédiatement, c'est-à-dire que maintenant, les femmes autour de moi, quand j'en parle, elles ont de bons réflexes.
C'est une question de génération, vous pensez ?
Non, pas du tout. Non. C'est une question de parole. La parole a été libérée quand même.
Vous écrivez, c'est le titre de votre quatrième chapitre, « Longtemps, j'ai trouvé ça normal », c'est une expression que vous avez employée dans cette conversation depuis le début déjà. Ben, quand on est victime d'inceste, on a du mal à se rendre compte qu'on est victime,
on peut pas le savoir.
Tout simplement.
On ne peut pas le savoir. Les enfants maltraités qui sont battus, ils pensent que tous les autres enfants sont battus.
Et le risque, c'est la reproduction ?
Bien sûr, c'est un risque, mais il existe des parents incestueux, agresseurs, qui n'ont pas été agressés ni incestés. Il existe des parents qui battent sans avoir été battus. Et il existe, par chance, j'en fais partie, des bons parents qui ont été maltraités dans l'enfance et qui, au contraire, ont surcompensé dans le respect. Je le raconte dans le livre parce que c'est assez drôle. Moi, j'ai élevé mes filles dans un tel respect que je ne sais pas laquelle des deux frappait à la porte du frigidaire.
Ce qui est parce que vous aviez l'habitude de frapper à sa porte, à
y elle-même, compris
quand
nouveau-né.
Vous étiez... bébé, voilà, voilà, c'est ça.
On s'est moqué de moi, mais je trouvais que c'est pas parce qu'on est un nouveau-né qu'on n'est pas une personne et qu'on n'a pas besoin d'être averti de la présence de l'autre.
Du respect, de l'intimité. Ouais. À plusieurs reprises, on parle de ce long temps qu'il faut parfois pour se rendre compte des choses. Il y a cette question aussi de la prescription, du
bien
temps judiciaire. Il y a quelques décennies, c'était 10 ans la prescription.
Oui.
Maintenant, c'est 20 ans. Est-ce que vous êtes pour
supprimer
pure et simplement la prescription ?
Alors, je vais vous dire, c'est un problème politique parce que supprimer la prescription revient à faire de l'inceste un crime contre l'humanité, ce qui n'est pas faux, par ailleurs. En même temps, l'association de crimes contre l'humanité, de l'inceste avec la Shoah, ne me convient pas. Je n'y arrive pas, personnellement. Donc c'est compliqué, cette histoire, parce que je voudrais conserver la notion de crime contre l'humanité à des faits monstrueux. L'inceste est une chose monstrueuse, on est bien d'accord. Lever la prescription, oui, je pense que c'est le nécessaire en l'encadrant autrement.
Ou tout du moins la rallonger ?
Oui, la rallonger, mettre 40 ans comme ça.
Parce que vous, il vous a fallu du temps et vous avez aussi été aidé par des psys.
Ah, bien sûr, mais moi je m'en suis sortie parce que je suis allée parler à quelqu'un.
Vous avez dit, oui, il y a cette phrase, la psychologue que vous avez vue vous a un petit peu sauvé ?
Bien sûr, je pense que je serais morte sinon, bien sûr. Et beaucoup de gens de ma famille sont morts de n'avoir pas parlé, de n'avoir pas pris conscience. Donc je pense que moi, j'ai sauvé ma peau. Je pense en partie pour mes enfants. Je pense qu'on peut très très vite se laisser aller à un désespoir qui ne sait pas, qui ne connaît pas son origine. Donc c'est très difficile de ramasser les morceaux. Moi, j'ai eu la chance de faire une dépression encore assez jeune, autour de 40 ans. Donc de sauver ma peau, donc d'aller bien aujourd'hui, de pouvoir en parler avec une sorte de froideur qui est nécessaire, parce que je ne pourrais pas en parler à chaud.
Et en même temps, vous dites, quand vous étiez jeune, adolescente, 20 ans, vous accumuliez les maladies, même pas forcément...
Toute petite, j'ai commencé très jeune, j'ai redoublé 3 classes jusqu'à l'âge du bac, tellement la maladie était ma façon d'appeler au secours.
Vous étiez anorexique aussi, et tout ça, vous dites, c'est le corps qui s'exprime.
Oui, bien sûr. Puis après, je fais des cancers qui m'ont permis de voir qu'il fallait peut-être faire quelque chose, là, quand même, on n'allait pas continuer.
Oui. Ce qui m'a le plus bouleversé, je pense, Sophie Chauveau, entre autres dans votre livre, c'est le fait que ses oncles, ses pères, ses parrains, même cette grand-mère, dans votre famille, tous ces prédateurs, les choses qu'ils ont fait subir aux enfants, pour eux, c'était naturel, c'était normal, ils ne voyaient pas qu'il y avait un crime. Je vais me permettre de citer des phrases qui sont peut-être un petit peu fortes de votre livre. Il y a cette phrase que vous hurle votre père sur le lit de mort de votre mère à propos de ce qui vous a fait subir, notamment dans ce mois de juillet quand vous aviez 16 ans dans cette maison de campagne que vous l'aidiez à retaper. Il y avait qu'un lit parce qu'il fallait bien rénover la maison, et vous avez refoulé ça pendant 40 ans, tout ce qui s'est passé ces nuits-là.
Plus même, oui.
Et vous, c'est lui, ce soir-là, il vous hurle, mais enfin, je ne t'ai tout de même pas enculé. Et puis, il y a cette technique qu'utilisait un de vos oncles pour calmer un de ses fils quand il pleurait la nuit. Je cite, je le décalote et je le branle, ça l'apaise tout de suite, c'est bien la preuve que c'est bon pour lui. Quelque chose d'inconscient dans ce...
L'inconscient, c'est la base. Ce que moi j'ai découvert, ce qu'on pourrait savoir en les voyant de loin, mais il faudrait le code, on ne l'a pas. Parce que ces gens présentent bien, c'est la bonne bourgeoisie, c'est qu'ils n'ont aucune conscience intérieure. Il n'y a pas de moi au fond d'eux. Ils font des gestes et ils n'ont pas conscience de leurs mains. Ils ne savent pas ce qu'ils font, au sens premier du mot. La conscience, l'état de contrôle qu'on a tous, une espèce de surmoi qui permet de ne pas se mal conduire en société, enfin, même si on en a envie, eh bien, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont vraiment pas. Ils se tiennent mal et ils pensent que, comme ils sont tous comme ça, comme c'est des familles comme ça, c'est normal. Et ce que moi j'ai découvert en travaillant, ils n'ont aucun sens de l'altérité. Ce qui est en même temps la marque du pervers. C'est pour ça que le livre s'appelle La fabrique des pervers. Parce que le pervers est celui qui considère l'autre comme un objet de son bon plaisir et qui va prendre dans le corps de l'autre ce qui lui convient, qui va isoler un morceau du corps de l'autre. Et on sait bien que. Je t'ai marché sur le pied, je suis désolée, j'ai pas eu mal au pied, donc c'est pas grave. J'ai pas fait attention, bon, ça va. La maladresse est l'excuse première de la bourgeoisie. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. Moi, j'ai pas mal.
Et vous dites, ça touche des gens qui sont très différents. Vous parlez de tel oncle qui était très catholique, mais aussi de votre petit oncle, je crois. C'est lui qui était un peu...
Le baba cool. Oui. Ce qu'il y a à voir, à mon sens, quand même, c'est... une éducation initiale, c'est-à-dire que les hommes de ces familles, de cette branche familiale d'où ma cousine et moi descendons, ont été élevés par des machos d'abord, on dirait quand même, parce que les femmes, c'est quantité négligeable, sauf une des femmes de la famille qui va se conduire comme un macho, et dépuce les sentifices, enfin, c'est quand même des choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. En plus, je l'ai connue, cette femme, elle ne me paraissait pas comme ça.
C'était Yvonne, c'est
oui,
ça
Yvonne. C'est la cousine préférée de mon grand-père. Ils ont élevé leur môme ensemble. Donc, mes parents, mon père et les parents de ma cousine, ces gens-là ont grandi ensemble. Donc, dans un même moule psychique où l'autre, eh ben, on peut s'en servir. Donc, c'est vrai que la conscience de la douleur de l'autre, du trauma, de l'âme de l'autre, mais ça, ils ne connaissent pas du tout, du tout.
Difficulté à se représenter l'autre, difficulté à expliquer aussi ces gestes-là avec des raisons évidemment logiques. Comment on fait du coup, quand on part de ce matériau-là, de cette enquête que vous avez fait, Sophie Chauveau, pour écrire ces choses qu'on ne dit pas, pour reprendre l'expression qui revient à plusieurs reprises sous votre plume?
Oui, parce que tout le monde me dit, mais enfin on n'en parle pas, mais enfin tais-toi, tu vas faire du mal à la famille, tu vas faire du mal. Non, le mal il est fait, il faut le dénoncer. Encore une fois, c'est un livre que je n'ai pas eu envie d'écrire, que je n'aurais pas voulu écrire si je n'avais pas été. D'une certaine façon poussé par une espèce de un groupe humain important de gens qui disent attends si c'est pas toi qui le dis vu que tu sais un peu écrire qui va le faire, qui va faire le boulot. Et puis il y a eu mes enfants qui sont au courant de toute l'histoire parce que je leur ai rien caché, encore une fois pas avec des mots crus ou des scènes violentes. Je les ai ménagés aussi à cet endroit là à l'endroit des mots en tout cas, qui disent ils font des enfants, tous ces gens. Il faut prévenir de descendants. Donc, à la demande de mes filles, j'ai écrit un épilogue qui est une lettre à nos descendants, qui est en fait la preuve à la fois que ceci a eu lieu, bien sûr, mais on peut en sortir en allant bien.
Oui, il y a cette phrase, je crois que c'est au début de votre livre, vous dites, quand on porte plainte, c'est pas pour punir, c'est pour protéger.
Oui, bien sûr. Autant que possible, il faut libérer cette parole, la libérer dans un cadre où ça ne soit pas une agression de mots violents, d'images crues. Donc il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai pesé chaque mot de ce livre de façon à ne pas éveiller quelque chose de grivois dans l'esprit d'un lecteur, par exemple. Il ne fallait pas décrire des scènes de viol, il ne fallait pas... C'était très... Mais en même temps, il fallait les dire. Donc voilà, j'ai pris vraiment un trébuchet pour peser chaque mot de ce livre et je pense avoir réussi dans les deux, trois derniers chapitres après avoir raconté l'horreur, quoi.
Cette généalogie,
comme dit La Fontaine, l'énormité du cas, quoi. C'est massif. pouvoir sortir de là en disant il y a un chemin pour sortir, il y a des moyens thaumaturges de faire qu'on va bien, qu'on va mieux, mais qu'on va bien. C'est-à-dire qu'on peut envisager la suite de l'histoire sans le poids de ça sur l'âme.
Pour revenir à la question que je posais tout à l'heure sur comment on écrit ce qui est de l'ordre de l'indicible, vous avez eu l'impression que ce tabou, il était aussi dans votre plume, qu'il vous réfrénait parfois ?
Il est, je vais vous dire, il est quasi stylistique. C'est-à-dire qu'il a fallu... J'ai cherché, parce que idéalement, je suis romancière, je vais faire un roman. Ça commence comme un roman, d'ailleurs, avec cette histoire du Jardin des Plantes qui est formidable. Et puis non, c'est juste pas possible. Il faut être auprès de l'histoire, auprès du récit, auprès du témoignage, et en même temps, ne pas être collé dessus, il faut s'en détacher. Donc il faut que là, c'est l'écriture qui prend le relais, c'est-à-dire c'est la langue, c'est le style, c'est comment on peut faire une belle langue, par exemple, avec l'horreur, sans que ça soit de la broderie, vous voyez ce que je veux dire, en rentrant dans le fond. Donc voilà, j'ai passé de longs mois à travailler sur comment l'écriture peut rendre cela.
Et donc, vous l'avez évoqué, ça commence avec ce prologue. On a l'impression que c'est un roman historique, 1870, 71, Paris.
Le siège de Paris, la famille.
Les Prussiens. Et puis, votre ancêtre, Arthur, qui se débrouille, on va dire, pour découper en steak les animaux du Jardin des Plantes.
Il a une idée absolument géniale, il devient milliardaire.
Oui.
Il devient le plus grand épicier de Paris. La génération d'après fera le café de Marcel Proust. Donc, en plus, on est dans les belles lettres, quasiment.
Tout à fait, une réussite sociale, ça c'est le début du livre, on a l'impression d'être dans un roman historique, et puis après, vous définiriez comment ce livre ? C'est un roman autobiographique, c'est un témoignage ?
Non, c'est un récit, c'est vraiment un récit, parce que c'est au fil de l'histoire que les choses se déploient. C'est-à-dire après, je suis obligée de faire intervenir ma cousine, d'abord parce que je lui dois ce livre, si elle ne m'avait pas
contacté. Elle est très présente, oui, dans le livre.
Oui, elle est importante, dans la mesure où sa douleur, je pense qu'elle a vécu, sans doute pire que moi, je ne sais pas, on ne fait pas de concours dans ce domaine, l'horreur à l'horreur, et je pense que... Et je pense avec certitude que les climats incestuels, où il n'y a pas forcément de pénétration, sont parfois pires que les climats où il y a viol. Au moins, il y a viol, il y a agresseur, on peut le définir. Mmh. C'est compliqué, mais c'est vrai. J'ai beaucoup parlé avec les psys, puis récemment, après l'écriture du livre, j'ai demandé à quelques psys de lire et de me dire, et de travailler sur ces familles monstrueuses, mais totalement hors normes, mais totalement insérées dans la société. C'est-à-dire, c'est pas du tout, c'est pas outreau, quoi.
Oui, tout à fait, oui.
C'est le contraire. Donc c'est saisissant, donc c'est un récit, au fil de la plume on essaye de cerner ces familles monstrueuses, l'histoire des mères, les femmes, le silence des femmes qui est c'est une énigme quand même, comment sur 4 générations les femmes se taisent, elles se taisent toutes, il y en a encore de vivantes, elles se taisent toujours.
Sauf la mère de Béatrice, mais oui. Vous avez des passages où vous dites que finalement elle s'est peut-être servie de ce qu'elle subit sa fille lors du divorce pour obtenir des compensations, donc finalement est-ce que ça vaut un silence ?
C'est-à-dire que, oui, ça vaut un silence parce que pendant 14 ans, elle s'est tue, puis elle a divorcé et elle a un peu fait payer sa fille, dans la mesure où sa fille a dû témoigner.
Oui, elle l'a exposée.
Voilà, elle l'a exposée à la justice, aux avocats, aux juges, mais elle a divorcé, donc sa fille, même si elle a été mal vue du reste de la famille, parce qu'elle a fait divorcer sa mère, c'est très lourd aussi pour une jeune fille.
Double culpabilité, écrivez-vous.
Oui, bien sûr. Bien sûr, ça retombe toujours sur les mômes, hein, quand même. Mais elle a, après, dit, effectivement, ton père s'est mal conduit, donc elle a été... Une bonne mère à cet endroit-là, elle a été un pansement, elle a été thaumaturge. Après.
Ouais.
Avant, non. Pendant, non, bien sûr.
Pendant 14 ans. Votre livre, il est fort, à bien des égards. Il est absolument essentiel et je pense qu'on le voit avec ces mots que vous prononcez à ce micro. On pourrait parler justement de ce silence des femmes, celui de votre mère. On pourrait parler de la passivité de ces adultes, les parents d'amis qui ont vu, qui ont soupçonné, qui...
qui ont même jalousé les parents. Ouais. Les parents, j'ai entendu le père de ma meilleure amie d'enfance qui disait « Ouais, moi, si on allait dire quelque chose, on était tellement admiratifs, ton père, il faisait des trucs qu'on avait envie de te faire. »
Verk. Oui.
Verk.
Comme si vous n'étiez plus un enfant, quoi. C'est vraiment ça. On a l'impression que pour certains adultes, il n'y a pas d'enfant, il n'y a
Non, il n'y a pas d'enfant. Il y a des objets de prédation, point. Il y a des morceaux du corps dont ils vont jouir, c'est tout.
Et puis, on pourrait parler aussi du sentiment de culpabilité. Parce que ça, c'est quelque chose qui oppresse toutes les victimes.
Mais toutes les victimes sont d'abord dans la honte, et c'est une des raisons pour lesquelles ça va mettre tellement de temps à sortir, y compris à arriver à leur conscience. La honte est ce qui fait silence, ce qui ferme le couvercle sur les familles prédatrices, c'est la honte.
Une des volontés de ce livre, c'est aussi se dire que maintenant, les gens qui vont lire ce livre, ils n'auront plus honte de subir ça.
Ils auront honte, parce qu'on a honte, on ne peut pas faire autrement. Quand on est sali par des parents, c'est-à-dire par les gens qu'on aime le plus au monde, à qui on doit la vie, on est honteux. C'est une honte absolue. Sauf que de savoir que les autres aussi ont honte...
On n'est plus seul.
On n'est pas tout seul. Moi, j'ai été... On a été très nombreux à être seuls très longtemps.
Ouais, vous voyez, c'est ce une très belle phrase de votre livre. Ouais.
Et je crois que je l'écris mieux que je ne le dis.
Mais je renvoie les lecteurs, alors. Oui.
C'est ce sentiment comme ça d'avoir été seul. Et on était tellement nombreux à être seuls que non, on est moins seul du coup. Alors le livre sert à ça. Le livre sert non pas à lever la honte, mais à dire il faut s'en débarrasser. C'est un boulot qu'on doit faire tous, chacun individuellement. On ne peut pas faire l'économie de retraverser la douleur pour en sortir.
Vous avez des témoignages de lecteurs, de lectrices qui vous disent merci ?
Oui, beaucoup. C'est majoritaire. Il y a des gens qui disent que j'ai eu du courage, alors que moi j'ai l'impression d'avoir... Le courage, c'est quand je me taisais. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, c'est fini, c'est passé, je l'ai dit.
Vous l'avez même écrit ?
Oui, je l'ai écrit, puis Gallimard l'a publié. Et Gallimard s'est trouvé très courageux de le faire aussi, parce que c'est un livre un peu bizarre. Il est dans la Blanche, qui est la collection prestigieuse de la maison, alors que ce n'est pas un roman. Enfin, c'est un objet hybride, hein. Je le sais moi-même, mais il est sorti comme ça. Et à un moment donné, j'ai vu avec les éditeurs chez Gallimard, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Donc vous me demandez, moi je dis un récit, je ne dis pas une autobiographie, parce que ça n'est pas que moi, c'est loin d'être que moi. Et moi, c'est...
Si ça avait été que vous, ça ne serait pas ça.
Il
n'y
aurait pas de livre. De toute façon, je ne trouvais pas mon histoire suffisamment intéressante pour la raconter. C'est le côté monstrueux de la chose qui fait littérature.
Je voulais finir par des choses un petit peu moins fortes, on va dire un peu plus légères. Et il y a cette phrase, à un moment, vous parlez de votre parrain qui tient une galerie. Il exposait Olivier Debré, Messager, Rebrol, Nicolas de Staël, mon premier amour de peintre, rajoutez-vous. Nicolas de Staël, c'est votre premier amour de peintre.
Oui, je suis tombée amoureuse. Alors là, c'est une histoire complètement folle, parce que je crois que c'est le dernier souvenir d'avoir été frappée par mon père. J'ai eu 9-10 ans. Je ne suis pas grande, hein, 9-10 ans.
Non.
On passe devant la galerie de mon parrain, il y a Nicolas de Staël dans les bleus méditerranéens en vitrine. Et je dis, je le veux, il faut me l'acheter. Et je sais qu'à l'époque, on est dans les années, on n'est pas en 60, on doit être en 59, un truc comme ça. Quand tu dis 59, mon père me dit, c'est trop cher, il valait 3 millions d'anciens francs. C'était pas riche, mais c'était mon parrain, enfin tout ça était négociable. Puis de toute façon, c'était un caprice. Et je me suis roulée par terre dans la rue de Miroménil en disant, je veux ce tableau. Et il m'a frappée. Non, mais tu es capricieuse, tu es folle. Du coup, je ne sais pas si c'est la beauté du tableau qui est absolue, définitive. J'ai toujours un petit frisson quand je vois une reproduction de ce tableau. Ou si c'est le fait d'avoir été frappé en pleine rue. Voilà, je n'ai jamais oublié Nicolas de Staël.
Et après, vous l'avez redécouvert, vous avez continué à l'aimer. Je vous pose la question parce que moi aussi, je pourrais écrire, enfin je n'écris pas, mais je pourrais écrire que c'est mon premier amour de peintre. Donc j'ai voulu vous poser la question.
Alors justement, moi j'ai beaucoup écrit sur les peintres et jamais sur Nicolas de Staël. C'est très intéressant. Je tourne autour, je ne peux pas y aller. Parce qu'il reste comme un... Mon chagrin d'amour personnel. Et il m'arrive de temps en temps, alors ça c'est très mystérieux parce que c'est cet univers onirique, de me réveiller après avoir rêvé, de me souvenir assez peu fréquemment de mes rêves, donc là je m'en souviens, j'ai peint dans la nuit, dans mon rêve, à Nicolas de Staël. Ce qui est très étonnant.
Et un jour dans vos romans, peut-être qu'on pourrait approcher cela, parce que vous dites, voilà, vous avez écrit des livres sur les peintres,
oui.
Mais peut-être approcher Nicolas de Staël par un autre détour ?
Je ne sais pas, honnêtement, je ne travaille pas du tout dans cette direction.
Ouais.
C'est comme si je m'en empêchais. Voilà. Et j'ai une amie qui a écrit à Nicolas de Staël, formidable. Je suis très contente, je continue de m'intéresser beaucoup à Nicolas de Staël parce que c'est un peintre, pour moi, fulgurant.
Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ?
Alors, il me plaît son itinéraire, cette espèce d'aristocrate russe comme ça qui sort de la Révolution quasi au milieu des flammes, qui arrive en France, qui devient ce peintre extrêmement précis, rigoureux, économe, comme ça, très bien rangé. Cet amoureux aussi magnifique, j'aime beaucoup ces histoires d'amour. Ce père, c'est un bon père, il s'occupe de ses enfants, qui est très rare chez les artistes, qu'avoir Picasso, bon, Manet. Et cette fin, la veille, il va à un concert de Boulez. Non, c'était un concert de... C'est pas Boulez, c'était... Oh merde, je suis désolée, il assiste à ce truc, il reprend le train de nuit pour Antibes. Et le lendemain, il écrit dans ses carnets quelque chose qui dit, alors là encore, la citation est inexacte, « Je ne serai jamais assez moderne. » Il se jette par la fenêtre.
Oui.
C'est quelque chose de... J'y arriverai pas, quoi. Ça a exclusivement à voir avec l'art. Et je suis toujours bouleversée quand l'art mène jusque-là.
Une dernière question pour terminer, Sophie Chauveau. Pendant un an, je l'ai posée à tous mes invités. Pour reprendre le titre de cette émission, qu'est-ce qui est absolument essentiel dans la vie ?
L'art.
C'est une belle conclusion, merci.
Je vous en prie.
C'est la fin de cette émission. Je remercie les éditions Gallimard et Mélanie Touré-Albi. Je remercie vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. Je remercie Rémi pour son travail de mise en ligne, Clément pour sa confiance. Pour moi, ce fut une année de radio inattendue. On raccroche son micro et puis en septembre, on écoute un album, Red and Black Light, d'Ibrahim Malouf. Une musique en particulier, essentielle. Je me suis dit que cette musique-là ferait un générique parfait pour une émission culturelle. La chaleur de la trompette m'a suggéré l'intimité des rencontres, du face-à-face, de l'interview. Et ainsi est né Absolument Essentiel. Je remercie Ibrahim Malouf d'ailleurs d'avoir accepté d'être mon premier invité. Cette année de Radio Inattendue, ce fut un cadeau pour moi, ces rencontres, ces incursions. J'espère vous avoir fait partager au Conseil d'État, à la Maison de la Radio, à l'Assemblée Nationale, dans les bureaux de Gallimard, ceux d'Universal ou encore au quotidien Le Monde, dans des cafés aussi, parfois. Je me souviens des yeux pétillants de Tsvetan Todorov, de la sonnerie de portable de Jean-Louis Debré, l'idole des jeunes de Johnny Hallyday. Je me souviens de la sincérité de Dominique Bertinotti, de la joie d'Elisabeth Quin à parler de cinéma. Je me souviens de la disponibilité de Pierre Servant qui m'aurait bien parlé encore plus longtemps du monde dans lequel nous vivons, de ce nouveau terrorisme qui nous menace. Et pourtant, je suis déjà ressorti ce jour-là de sa maison de Versailles avec plus d'une heure de rush. Je me souviens de l'amertume d'Enzo Enzo, de la jolie timidité de Yanis, du charme ravageur de Marvin Juno, sa voix sensuelle quand il chante comme quand il parle. Je me souviens de l'engagement de Geneviève Garrigos, la présidente d'Amnesty International France, et du militantisme du collectif Georgette Sand. Je me souviens de la générosité de Jean Birnbaum et du professionnalisme de Guillaume Herner, du sourire d'Andrea et de Carole de l'association Vivre aux éclats, de la force, surtout, du témoignage de Sophie Chauveau que nous venons d'écouter. À la fin de mon émission, à tous ces invités si différents, j'ai demandé ce qui, pour eux, était absolument essentiel dans la vie. En septembre prochain, vous retrouverez un montage de leurs réponses. Ce sera le 19e et tout dernier numéro de cette émission. Les voix sont faites pour se taire. J'ai trouvé la mienne au micro de cette radio qui fut plus qu'un média. Une famille aussi. Je vous souhaite de belles vacances d'été et je sais que Transistor sera au rendez-vous en septembre pour vous accompagner pour une année de plus. Mais d'ici là, surtout et pour toute ma vie, jamais je n'oublierai ces 5 années essentielles.